Eh bien, nous allons donc reprendre cette journée de colloque numéro 1 avec la table ronde de cet après-midi. Alors, merci à toutes et à tous d'être avec nous, présents et présentes. Et voilà, je crois que maintenant, c'est le moment de présenter nos invités. Donc, on a avec nous Anne Dreyfus, qui est danseuse et chorégraphe, directrice du Générateur depuis 2006. Et qui mène un projet qui s'appelle, enfin, qui a un dispositif Performance Source. C'est une base de données dédiée aux archives de la performance, c'est ça?
C'est ça.
Peut-être en dire deux mots.
Oups. Voilà, c'est une base de données qu'on a créée et mise en ligne au début de l'année 2000, cette année, et qui, comme ça, répertorie. Déjà, en premier lieu, toutes les performances qui ont eu lieu au Générateur depuis 2006, puisqu'on se destine à ce champ de l'art plus particulièrement, puisque ce n'était pas un théâtre, c'est un grand espace vide. Et c'était une belle occasion, avec le soutien de la Fondation de France, de valoriser tout ce qui s'y était passé avec comme objectif, c'est déjà en route puisqu'on a déjà plusieurs partenaires, que cet outil serve à l'archivage et à la valorisation de la performance en France aujourd'hui.
Et si je peux me permettre de demander un peu de précision, c'est un outil plateforme qui se nourrit donc aussi rétroactivement?
Tout à fait, là pour l'instant c'est des archives, donc ça se nourrit rétroactivement sur les activités du lieu, mais aussi celles maintenant de plusieurs centres d'art. Et tout le défi pour moi et pour le Générateur est de continuer à le développer. Donc on est en pleine négociation avec les tutelles pour nous financer et avoir quelqu'un qui à présent prend en charge le développement du site. Et tout récemment, une présentation a été faite de cet outil au symposium de la DCA, donc la direction des centres d'art à Bordeaux, puisque la question qui y était posée et qui est centrale pour tous les centres d'art actuellement, c'est comment fait-on avec toutes ces archives? Comment les valorisons-nous? Et Performance Source est une base qui, comme ça, peut permettre, en tout cas dans le secteur des pratiques performatives, de le faire.
Et si c'est pas trop indiscret, jusqu'où est-ce qu'on essaye de, enfin, est-ce que vous essayez de remonter? Est-ce qu'on va jusqu'à Valentine de Saint-Point, les documents de performance, ou est-ce qu'on s'arrête à, je sais pas, les années 70 quand il y a les débuts des vidéos autonomes?
Ouais, en fait, je pense que le Générateur est d'abord un lieu de production et d'abord un lieu qui accueille des artistes, et donc tous les artistes actuellement qui sont sur la base des données sont des artistes vivants. Déjà pour comprendre, créer ce site, le réaliser pour qu'il soit un minimum, je trouve, en phase avec les données de la performance, c'est-à-dire c'est complètement contradictoire aussi, puisque on prêche en tout cas la valeur de l'instant, de la présence, de l'incarnation. Donc comment réussir à pas trop détourner l'essence même de la performance? Donc il y a eu on a inventé cette base de données en essayant de l'accompagner d'un maximum de sensibilité, si on peut dire. Il y a des mots-clés, il y a une roue générateur qui permet au public, à la fois chercheur ou novice, de découvrir des œuvres actuelles, ou en tout cas qui ont une quinzaine d'années au maximum. Et l'objectif est de réussir à intégrer, il y a par exemple déjà des archives de Jacques Donghy, qui a été un précurseur avec une galerie qu'il avait fondée au début des années 80. Donc il y a déjà une dimension historique, mais on n'en est qu'au début, dans la mesure où, bien pour continuer à la développer, cette base de données, il faut qu'on ait des moyens qui nous permettent de le faire. On a déjà eu les moyens pour la créer, donc c'est assez miraculeux. Il n'y a pas d'équivalent véritablement de ce type pour l'instant en France. On est une toute petite association, donc c'est pas la différence. Maintenant, on est parfois invité avec des grosses structures qui font ça de manière, c'est normal, c'est leur mission, comme la BNF. Récemment, c'était Beaubourg. On était aussi invité à participer à ces questions-là. du patrimoine, en fait, hein, d'un patrimoine immatériel, mais néanmoins bien, bien, bien vivant. Il y a aussi la Comédie Française, donc moi j'étais à côté, je disais « Oups, nous on a fait ça, c'est un peu un miracle, mais c'est vraiment voué à être partagé et à continuer à s'amplifier en fait, parce que l'outil est, à mon avis, on va dire, performant. Je pourrais le décrire si on en a l'occasion, ou passer un peu en revue les différents onglets qu'il y a sur cette base de données, ce site.
Ouais. En tout cas, c'est très réjouissant de savoir qu'il y a des initiatives comme ça, je pense, pour tous les gens qui nous écoutent aussi. Et par rapport à l'existence ou non de projets similaires, moi, je serais d'avis de dire qu'au contraire, il faudrait mieux qu'il n'y en ait pas trop et qu'on concentre un maximum et que ça puisse communiquer avec d'autres choses existantes comme la base de données de la BNF ou si Beaubourg a déjà des choses, mais que ça fédère directement plutôt que d'avoir des compétitions et des concurrences.
Ah bah, complètement, on est complètement d'accord. Hein.
Ça, c'est, peut
c'est
être,
sûr. Ouais. J'ai même récemment intégré... par exemple, Poésie's Not Dead, qui est quelqu'un qui, depuis 10 ans, collecte tout ce qui a à voir avec la poésie sonore, poésie action, poésie numérique, qui a créé une chaîne sur YouTube formidable d'entretien. Et elle va être aussi présente, sa chaîne, son lien, son collectif sur Performance Source. Donc, il n'y a pas de du moment qu'on est justement sur des liens, des partages, et qu'on crée un réseau de plus en plus important, et c'est l'enjeu et c'est le but du projet, qui n'est plus un projet, qui existe. Et on passe toujours, pour terminer, les artistes, c'est une plateforme mais qui n'est pas accessible directement par les artistes vers Performance Source. On passe à chaque fois par un lieu, une structure d'art. Pour l'instant, c'est essentiellement des centres d'art. Il y a le Crédac, il y a le CNAI, il y a le Centre Wallonie-Bruxelles, le MacVal, pour créer aussi un sas de sélection avec qui choisissent 2-3 artistes et qui intègrent la base de données, qui quand même demande quand même pas mal d'informations, puisque chaque œuvre est vraiment décrite, la biographie, une notice, la note d'intention, des photos, une vidéo, donc c'est assez complet.
Donc si je comprends bien, moi qui habite à Arbois, j'ai aucune chance en fait d'accéder.
Ah, on verra. Non.
Ok, on continue un petit peu les présentations. Donc ma liste suivante, suivant ma liste, la prochaine personne à la table, c'est Jean-Philippe Imbleau, en deux mots, ingénieur multimédia à la BNF, attaché au service multimédia, département son vidéo multimédia, donc spécialiste de la virtualisation des documents électroniques et des plateformes de diffusion, et aussi qui s'occupe du transfert de tous les types de supports multimédia déposés au titre du dépôt légal, et aussi des acquisitions ou dons de la BNF. Peut-être que, je sais pas, tu peux présenter un peu plus.
Oui, alors, il y a énormément de choses à dire, donc je vais me limiter. Donc pour dire que la BNF, elle a en charge le dépôt légal. Donc c'est sa mission régalienne depuis presque 5 siècles maintenant. Le dépôt légal a été étendu progressivement au fil du temps. Hein, à l'époque de François Ier, c'était les débuts de l'imprimerie, mais voilà, au fil du temps, les cartes et plans, les médailles, les costumes ont été, inclus dans le spectre du dépôt légal. Et au XXe siècle, le son, la vidéo et l'informatique... alors l'informatique sous différentes formes, plutôt grand public, hein, la BNF c'est plutôt tout ce qui est édité pour le grand public. Donc à partir de 92, les jeux vidéo, les logiciels, les bases de données sont inclus dans le dépôt légal et arrivent au département SVM. Et donc moi je suis le technicien attaché à ce département, un des techniciens attachés à ce département, qui bénéficie de techniciens attachés, hein, contrairement aux autres départements qui traitent plutôt de l'imprimé et pour lequel il y a un service informatique commun à la BNF. Donc là, on est quelques ingénieurs et informaticiens à travailler avec les conservateurs pour réaliser la mission de la BNF, qui est donc d'une part récolter tout ce qui dépend du dépôt légal, tout ce qui relève du dépôt légal, et puis après être en mesure de le conserver et de le présenter au public. Et c'est pour notamment pour ça qu'on met en œuvre des techniques de virtualisation, donc de copie des supports, parce que très longtemps, évidemment, c'était des éditions sur support, et puis de virtualisation des machines, c'est ce qu'on appelle l'émulation. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus s'il y a besoin. Voilà, bon, ça c'est le fond. Après, non seulement le dépôt légal, parce que l'art numérique n'est pas forcément toujours concerné par le dépôt légal. Nous, on a des choses d'art numérique parce que ça a été édité sur CD-ROM, par exemple. Donc là, oui, les CD-ROM, c'est le dépôt légal. Il y a des choses qui sont éditées sur Internet. Donc on essaye, bon an, mal an, et avec beaucoup de difficultés, de récupérer ce qui sort sur des .fr en particulier. Et puis, on a aussi des dons et une politique d'acquisition qui permettent de compléter nos collections. Sachant que ce dont on parle ici, ce n'est pas tellement des choses éditées, hein, c'est plutôt des choses présentées dans le cadre de musées, d'expos, de performances. Et là, comme ça ne relève pas forcément du dépôt légal, c'est à nous d'être proactifs, de rentrer en contact avec les artistes et de trouver les modalités techniques permettant le dépôt. Alors à côté de ça, on a encouragé aussi des initiatives de chercheurs pour essayer de faire avancer la documentation de ces œuvres, parce que une bonne partie de ces œuvres ne sont pas rejouables, hein, qu'on pense à des installations avec des capteurs, etc. Bon, dans les salles de lecture de la BNF, c'est compliqué de recréer un ponton interactif ou tout un tas de choses qu'on a pu voir. Mais dans ce cas-là, on essaye de documenter un peu, je pense, ce que fait ma voisine, c'est-à-dire de rendre compte de ses œuvres par des captations vidéo, par des notices d'intention, des choses comme ça. Voilà. Mais on a un fonds qui commence à s'étoffer, qui n'est pas gigantesque. Et chose importante, donc, ce qui est récupéré dans nos collections est consultable à la bibliothèque François Mitterrand, en salle P, mais également on fait de la valorisation à Richelieu, hein, le site historique de la BNF, où la salle ovale a été restaurée récemment, réouverte il y a à peu près un an, et sur lequel on propose un certain nombre d'œuvres, alors je n'ai pas le nombre exact, mais enfin plus d'une trentaine d'œuvres d'art numérique sur des postes, en libre accès dans la salle ovale, je vous invite à vous y rendre, et en outre, à Richelieu, il y a un musée qui s'est ouvert, et là aussi, on est représenté. On a eu une œuvre d'Edmond Couchot, par exemple, pendant 6 mois. On va avoir une œuvre de Damaris Rich à partir de janvier. Voilà.
Du coup, pour reprendre un petit peu la balle au bon, là, il y a quand même des mots qui ont été dits. On a parlé de patrimonialisation, là, on vient de parler de valorisation, et tu as évoqué le don. Et il y a le don. Le don d'œuvres, et d'archives. Donc c'est peut-être une spécificité intéressante de la BNF d'accepter des dons. Et voilà, d'avoir fréquenté la BNF pendant quelques années, je me suis rendu compte d'un truc, un phénomène assez intéressant, qui est que certains artistes, pour ne pas dire beaucoup d'artistes, qui donnent leurs archives ou leurs fonds à la BNF, s'attendent d'une certaine façon à un troc. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent en échange de dons d'archives une exposition rétrospective de leur œuvre. Ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé de patrimonialisation et de valorisation, et la valorisation ici prend un sens complètement différent, c'est-à-dire que patrimonialiser ces œuvres, c'est aussi leur donner une valeur. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on est tous concernés, mettre nos œuvres dans une collection comme celle de la BNF, c'est une façon d'exister. Mettre nos performances, nos documents de performance dans Performance Source, c'est une façon d'exister. Et donc, sans même parler de cotation et de marché de l'art, c'est donner de la valeur aux gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un certain stade du parcours d'un ou d'une artiste, la question se pose de la mémoire. Qu'est-ce qui va rester de moi quand je vais disparaître ? Et donc, on a envie de donner, et même à notre âge, à quelque âge que ce soit, on peut avoir envie de donner pour être pas oublié, et dans ce sens-là, c'est comme si c'était naturel. On a envie qu'en échange de notre don, il y ait une forme de valorisation. Alors plutôt que de pointer le doigt vers ce genre de réaction et de dire c'est bizarre ou je sais pas quoi, on peut peut-être se dire que c'est naturel en fait, et qu'il faudrait penser un protocole ou un dispositif qui prenne tout à fait au sérieux en fait ce désir des gens d'être mis en valeur, et pas dans le sens forcément d'un marché de l'art, parce que c'est pas forcément de la spéculation financière dont il s'agit là, c'est plutôt une façon de vivre, quoi. Je sais pas si ça te...
Ouais, alors Effectivement, on a pu d'ailleurs susciter des frustrations parce que organiser une exposition à la BNF, c'est des choses qui se programment plusieurs années à l'avance avec commissaire d'exposition. C'est quand même la grosse artillerie. Alors, on a pu faire des valorisations plus modestes dans le cadre de conférences ou de choses comme ça, mais les expos BNF, c'est très très difficile à obtenir. Donc effectivement, il y a des artistes qui n'ont pas forcément toujours compris pourquoi on ne les exposait pas, alors que Céline, alors que Tolkien, bon, bref. En revanche, je te rejoins, c'est que entrer dans les collections patrimoniales de la BNF, que ce soit par don, acquisition ou en vertu, enfin, suite au dépôt légal, c'est déjà avoir une notice pour l'œuvre, donc un moyen de le retrouver sur le catalogue général de la BNF. Alors, pas aussi bien décrite que ce qu'on voudrait. C'est des notices qui sont comparables à celles qu'on fait pour les livres ou pour tout ce qu'on a dans nos fonds, hein, avec un formalisme qui est le même en réalité. Et ça pose problème, parce qu'on voudrait détailler beaucoup plus les choses. Ça va donner aussi lieu à la création de notices d'autorité, ce qu'on appelle les notices d'autorité, donc un auteur, quoi. Les auteurs sont référencés dans une base spéciale, et effectivement, c'est quand même une forme de reconnaissance pérenne, puisque ce qui rentre au catalogue n'a pas vocation à en ressortir. Donc voilà. En revanche, tu as aussi parlé d'un échange avec les artistes. Moi, j'ai pas mal d'artistes qui me contactent parce qu'ils n'arrivent plus à jouer leur œuvre. Alors, ils sont d'accord pour les déposer. Nous, on est d'accord pour les aider. Et on va travailler ensemble pour essayer de ressusciter, autant que faire se peut, quand c'est possible, hein, leur œuvre. En général, via de l'émulation.
Et moi, je reviens avec l'idée que peut-être que ce n'est pas à la BNF de gérer ce désir de valoriser ou d'être valorisé, cette espèce de volonté d'existence, quoi. Peut-être qu'il y aurait un autre dispositif qui devrait exister. Et j'en veux pour preuve le dépôt à titre de don d'archives de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui ont des collections depuis les années 80, que ce soit de choses qui peuvent se jouer sur Minitel, donc pas du tout des jeux vidéo. Par exemple, le portrait de Giscard d'Estaing qui n'a pas été diffusé puisqu'il a perdu les élections, et celui de Mitterrand a été diffusé sur Minitel. On a retrouvé sur une péniche quelque part quelqu'un qui a des cartons avec des choses jouables sur Minitel. Et cette personne-là, exactement comme un artiste ou une artiste, souhaite être valorisée, en fait. Veut que l'acte d'avoir conservé pendant 40 ans des choses qui aujourd'hui se font rares soit reconnu. Et donc, on est dans le même problème. C'est-à-dire que ce n'est pas aux institutions qui vont les récupérer de les valoriser. Peut-être que c'est plus une conscience collective, quoi, qui devrait le faire. Et donc, je ne sais pas à qui va revenir cette patate chaude, mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. Par contre, pour juste revenir vers la BNF, peut-être que si les personnes qui déposent ou qui donnent le souhaitent, on pourrait imaginer dans un futur à long terme, peut-être, de contourner la coercition du droit d'auteur pour valoriser des choses qui sont encore soumises au droit d'auteur, mais que les auteurs souhaitent mettre en partage sur quelque chose comme Gallica.
Bon, alors, là-dessus, on est vraiment dans le prospectif. La BNF a, outre le dépôt légal, en charge le respect du droit d'auteur. Et on y est très attaché, donc qui dure 70 ans après le décès, hein, des auteurs. Donc, effectivement, c'est un peu problématique pour tout ce qui est informatique, jeux vidéo, tout ça. Ça a quand même pas encore 70 ans et c'est pas prêt. Donc, voilà. Donc, Gallica, oui, un jour, peut-être, mais là, je ne sais pas si on sera encore là pour le voir. Il y a beaucoup de choses encore de ce que tu as dit, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Sur le Minitel, on a eu, bien sûr, la volonté de récupérer des choses. En travaillant avec France Télécom, devenu Orange, ça s'est avéré très compliqué, en fait, hein, parce que tout ce qui est en client-serveur, sur des serveurs très anciens, c'était pas simple. Donc on a récupéré assez peu de choses. Voilà. Après, sur le don, effectivement, les sources d'art ou de jeux vidéo, on est preneur, bon, dans une certaine limite quand même, parce qu'on n'a pas, on n'est pas des archives non plus, hein, et c'est beaucoup de travail de dépouiller des archives, de les cataloguer, de les valoriser, mais sur le principe, oui, et oui, on est preneur.
Ok. Et dans cette table ronde, donc last but not least, on a deux représentantes de Digital Library, donc avec Simona Dvorak, qui est curatrice et historienne de l'art indépendante et membre actif de l'initiative For Practices and Visions of Radical Care, Et donc, Sébastien Pikmal, qui est développeur et activiste avec un H, aussi web, qui maintient une base de données sur Web Pure Data, c'est ça ? Enfin, peut-être vous pouvez nous dire des trucs. Je vous laisse vous présenter le projet, etc. Et vous-même, si. À vous.
Oui, donc bonjour. Donc, je ne sais pas si je dois vraiment parler de digital library tout court aussi, mais j'ai apporté aussi cette publication que je vais faire circuler, dans laquelle il y a aussi une partie sur le digital library. Et je voudrais juste dire aussi pour ce débat, parce que la différence entre nous, c'est que nous, on n'a aucun fonte, à part de quelques mini-données qu'on a collectées, mais on est plutôt là pour parler d'un projet où on a plutôt questionné de qu'est-ce que sont des données de manière générale, et une sorte d'éthique aussi liée à la fois des digital, mais aussi des Internet de manière générale. C'était un peu plutôt des pensées des outils artistiques et curatoriales. Comment on peut revenir vers cette origine émancipatoire et démocratique qui était pensée par ces outils-là, et on s'est plutôt posé des questions, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces outils-là. Donc notre idée était avec les jeunes générations, avec des étudiants des Beaux-Arts de Paris, de questionner ensemble ces outils, et justement avec Sébastien qui est aussi qui a cette pratique d'ingénieur et programmateur, on s'est dit qu'est-ce que c'est la boîte noire, par exemple, qu'est-ce que ce sont des données. Donc l'idée était de workshop Digital Library, tout simplement de vraiment questionner des choses assez basiques et démystifier de tout qu'est-ce qu'est l'Internet, etc. Et qu'est-ce que je fais circuler, c'est donc la publication d'un projet qui s'appelle Actes des langages. C'est un cycle curatorial qui est à Montreuil, à la Maison Populaire, et dans lequel on a inscrit le Digital Library. Et peut-être c'est aussi intéressant d'ajouter juste sur ces projets quelques mots, parce que c'est trois expositions qu'on a faites en 2023. Donc chacun a traité d'une manière différente d'une sorte de l'archive comme une pratique artistique. Donc la première, c'était vraiment un projet de l'archive des données physiques, historiques, scientifiques et tout, qui peut être détourné dans le travail artistique par Zbigniew Baladan. Et la deuxième, c'était notamment sur la question des oralités, de quelle forme peut avoir de pratiques orales, la chante, etc., des pratiques qui viennent plutôt de contextes non occidentaux, et qui rejoint plutôt des voies invisibilisées. Donc on s'est plutôt posé de questions, la politique de visibilisation de ces voies, de ces données variées. Et la troisième, c'était sur la question de l'écoute, qui est aussi un moment assez important. Parlons de langage, et langage qui fait partie de l'archive, parce que c'est ça qu'est-ce qu'on inscrit dans un document. Donc voilà, donc c'était aussi pour dire quelques mots là-dessus. Et donc le Digital Library, on a fait un printemps ici avec Vincent Rieux au Beaux-Arts de Paris, avec Julien Prévieux aussi, Angelica Messiti, et on était une petite groupe de personnes de backgrounds très différents, à la fois de personnes qui sont très douées dans le numérique ou qui se connaissent beaucoup, et nous qui ne connaissons rien, commissaires d'exposition, et aussi certains artistes, etc. Et donc l'idée était de justement de se poser ces questions de qu'est-ce que ça veut dire numérique aujourd'hui, et qu'est-ce que ça peut aussi dire dans l'avenir, dans un mémoire du futur qui peut être un projet assez pessimiste à la fois. Donc voilà, très brièvement, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais Sébastien va ajouter peut-être sur contribution qui était très importante.
Oui, c'est vrai que moi, je vais me présenter rapidement aussi. Du coup, moi, je suis à la base ingénieur, donc ingénieur informaticien, programmeur. Après, j'ai été aussi artiste numérique pendant quelques temps. Et puis, j'ai eu un tournant à un moment où ça ne m'apportait plus vraiment de satisfaction. Je suis devenu activiste à plein temps, activiste climat, donc j'ai été très actif au sein d'Extinction Rebellion France. Et depuis, je suis en train de revenir petit à petit vers les questions d'art numérique d'un point de vue plus d'activisme, en essayant d'amener avec moi ce que je connais des milieux créatifs, ce que je connais de la technologie et toutes les problématiques politiques que j'ai rencontrées et auxquelles j'ai réfléchi. Et du coup, c'était avec ces backgrounds multiples, on va dire, que je suis arrivé au sein du projet. Je suis arrivé, je pense que c'était déjà un petit peu tard, dans le sens où ça avait déjà été conceptualisé. Mais en fait, ce qui a été le plus intéressant pour moi dans le projet, outre mon intervention durant le workshop, ça a été tout le processus en amont pour construire, en fait, pour essayer de raccrocher cette question des archives et cette question du numérique. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on essayait de refermer et d'avoir quelque chose de précis sur le thème de l'atelier, on se retrouvait toujours à ouvrir de nouvelles portes, parce qu'en fait, on se rendait compte qu'il y a tellement de problématiques qui sont liées à ça, que ce soit la question des données, la question de la politique des entreprises du numérique, la politique d'Internet. C'est très dur, en fait, de définir tous ces concepts. C'est vraiment une galaxie de concepts qui sont tous liés, qui sont tous glissants. C'était intéressant. Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est un concept finalement sur lequel, enfin une idée sur lequel finalement on ne s'est pas arrêté plus. C'était l'idée de penser l'archive après l'effondrement, et de penser le numérique après l'effondrement, c'est-à-dire en fait en partant de l'idée simple de si notre société s'effondrait, si on avait un effondrement écologique et que du coup on perdait forcément beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on choisirait de garder en termes de technologie numérique et en termes de données. Voilà, ça c'est une question qui m'avait beaucoup inspiré. Et après, moi, ma contribution, elle a été essentiellement de... finalement, comme je disais, c'était un sujet très 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 large. Et donc on s'est rendu compte peut-être que pour parler des archives dans le numérique, il fallait commencer par définir ce que c'était que le numérique, parce que beaucoup d'étudiants en fait comprenaient pas vraiment ce que c'est que le numérique. Et du coup, moi j'ai fait une intervention qui s'appelait « Ouvrir la boîte noire, comprendre la matière numérique », donc pour expliquer un petit peu ce que c'est que le numérique, ce que sont que les données, ce que c'est que des fichiers, ce que c'est que du code. Voilà, donc c'était très, on va dire, très, très théorique. Ouais. Voilà.
Et c'est super intéressant, et il y a plusieurs nouveaux mots là qu'on peut rajouter à notre collier de coquillages. C'est donc il y a eu l'activisme, mais aussi l'invisibilisation. Tout à l'heure, Jean-Philippe nous disait ça crée des notices. Donc la notice, c'est aussi quelque chose qui permet une forme de référencement. Donc dans cette bagarre numérique de qui va être vu par qui ou qui a accès en fait à la visibilité, on a des notions de biais algorithmique, etc. Je ne sais pas si le projet aussi parle de ça, comment est-ce que en tant qu'activiste on peut faire face à l'invisibilisation de certaines luttes, je ne sais pas. Peut-être que ça vous parle.
Tu veux répondre ?
Ouais, moi, je vais dire juste rapidement, parce que moi, je ne suis pas activiste. Donc, moi, j'ai plutôt un autre... Parce que toi, ce sera plus long. Mais moi, je pense que dans l'art contemporain, justement dans le domaine curatorial, c'est la question des visibilisations peut être au contraire très importante par rapport au travail d'activiste. Donc, c'est quand même différent. Parce que nous, par exemple, quand on travaille sous la visibilisation, ça veut dire aussi qu'on travaille sous les pratiques qui ne font pas partie justement des notices dans des archives ou d'un cadre, d'un canon occidental, on peut dire ça comme ça, mais plutôt des pratiques qui viennent de personnes enfin, racisées, des communautés LGBT ou des artistes autochtones. Donc, on cherche vraiment des pratiques qui ne sont pas à sa place dans la compréhension de l'art contemporain. Donc c'est ça, ce qui nous intéresse, c'est cette donner des voix aux personnes qui ne sont pas cette privilège d'avoir des voix. Donc je pense que c'est aussi assez différent par rapport de travail activiste, parce que c'est bon, si on parle de questions de visibilité par rapport des luttes.
Simona, il me semble aussi, pardon, mais que tu n'as pas mentionné le rideau de perles, le travail avec les fanzines. Notamment parce que je trouvais que le fanzine, c'est intéressant parce que c'est une sorte d'archive assez vivante, assez justement un peu à côté de tout un tas d'éditions, disons, plus massives, plus repérées. Aussi important de souligner que le Digital Library, donc c'était quand même un projet avec des étudiants des Beaux-Arts qui se sont emparés aussi de ces choses-là et qu'on peut voir à quel point ça leur parlait aujourd'hui, y compris si c'était des fanzines qui étaient un peu anciens. donc ont été numérisées, mises en une base de données. C'est pour ça que c'est un lien quand même vraiment direct avec l'archive numérique, qui ont été archivées de façon numérique, de façon assez consciencieuse, et du coup dans lesquelles on peut aller chercher maintenant. Et ça crée quand même une archive qui parle aux jeunes artistes. Et puis, pardon, mais sur Zbigniew aussi, je ne suis pas sûr qu'on a bien compris que Zbigniew Baladran, donc, dont vous voyez enfin, dans les deux ouvrages qui circulent, c'est un artiste qui, lui, en quelque sorte, tord un peu l'archive, c'est-à-dire qu'il va la distordre. Il travaille à partir des archives, mais il n'hésite pas à les distordre. C'est encore une autre façon de voir un travail artistique se faire avec, comme support, l'archive.
C'est une longue réponse, c'est de longues questions aussi. Mais je vais juste dire très rapidement, parce que ça touche l'idée de Digital Library, cette question des fanzines. Parce que pour nous, quand on a commencé cette réflexion sur le Digital Library, c'était, comme je dis au début, c'était la réflexion sur des outils qu'on utilise dans la sphère artistique et curatoriale, et comment on les comprenne aussi, ou comment justement on ne les comprenne pas. Et, par exemple, la question des fanzines, pour nous, c'était tout un sujet de tout ce qui était avant l'Internet aussi à la fois, parce que c'était un outil qui s'est photocopié, qui était destiné aux, je sais pas, des communautés science-fiction, mais aussi féministes, etc. Donc c'était plein de différentes communautés qui sont des précurseurs des réseaux sociaux, des fanzines. Donc pour nous, c'était une inspiration aussi là-dessous, de plutôt comment on peut éviter numérique en retournant vers des pratiques tactiques en fait de tangibles. Donc c'était ça pour nous le fanzine, et tu as parlé des rideaux perles où c'était constant aussi, parce qu'en fait ça serait trop long si on parle des contenus de Digital Library, donc je ne vais pas revenir sur tous les points, mais en tout cas on a collaboré avec certaines associations qui sont basées à Bruxelles, notamment avec Laurence Rassel, qui est directrice des ERC, et qui est quelqu'un très important dans des questions de nouveaux médias et de numérique, parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup contribué sur les questions des open sources aussi, mais des points de vue structurels, comme de voir une institution comme un logiciel libre, à la fois transparente, etc. Donc ça rejoint des idées féministes, et qui sont aussi liés avec la question d'Internet, qui était vraiment un outil pour des voix qui ne sont pas entendues aussi. Donc avec le début d'Internet, c'était vraiment pensé comme l'émancipation, démocratie, etc. Et nous, qu'est-ce qui nous intéressait, c'est qu'est-ce que ça devient aujourd'hui avec des questions de privatisation, qui en fait, ça peut être un terrain assez dangereux aussi, que le public devienne privé. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, et comment on peut aussi comprendre dans quel moment quelque chose, qu'est-ce qu'on manipule avec un bouton, en fait, est beaucoup plus complexe que cet un seul geste d'appuyer sur quelque chose. Donc c'était vraiment toute une réflexion extrêmement large, et c'est assez difficile de la synthétiser. Mais en tout cas, pour des références, si ça vous intéresse, c'est dans la publication, mais c'est donc Laurence Rassel, Constante, qui est aussi une association dont elle est membre, et qui retrace beaucoup ces questions de numérique, intersection aussi, féministe, de différentes luttes aussi, militantes, etc. Et puis il y a le Rideau des Perles, qui est une association qui était au sein de l'école de Laurence Rassel, et qui était un groupe d'étudiantes qui se sont réunies pour créer des ressources, des références, des publications qui manquent à l'école ou dans des bibliothèques, et qui sont souvent des livres assez, je ne sais pas si le bon mot est progressiste, mais pas des livres qui sont accueillis par des fonds. Et donc c'est des livres qui ont touché beaucoup des questions, de diverses luttes aussi sociales, etc. Et qui, ils ont récolté un format PDF, et ils sont les mis sur un serveur à l'école à mettre à disposition libre. Donc c'était de travailler vraiment de cette question structurelle de open sources. Mais je...
Et, du coup, avant de laisser les questions, moi, je pointe simplement le fait que Là, on a devant nous quand même plusieurs approches de questions qui se connectent quand même, parce que chaque projet dont on a parlé, je mets la BNF dans le terme projet, même si ce n'est pas exactement ça, a pour but aussi de sauver une partie de ce qui est en train de se perdre. Donc, bon, il y a cette idée de naufrage là qui fait lien, mais peut-être que, je ne sais pas, on peut refaire un petit tour de table pour voir un petit peu quelle ligne de... qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux pour faciliter, en fait, la fédération de plusieurs projets comme ça, qui aujourd'hui nous paraissent distincts, mais qui pourraient voilà, avoir des intersections fructueuses.
Sur ce point précis, ça fait un petit moment que je travaille sur le sujet à la BNF, ça fait plus de 20 ans que j'y travaille, et c'est très difficile de coordonner des initiatives. Moi, j'ai l'expérience d'un projet de musée de l'informatique, où il y a déjà plusieurs initiatives en France et puis à l'étranger aussi. Et pour avoir réuni, c'est le CNAM qui s'en était occupé, plusieurs acteurs comme ça, on voit que c'est impossible de les réconcilier sur une vision homogène. Donc je crois que malheureusement, ces projets-là, ils ont quand même vocation à rester un peu disséminés, mais ça n'empêche pas de faire du lien entre eux, d'avoir une méta base de données ou des choses comme ça. Mais chaque projet est tellement singulier et puis est porté par un petit nombre de personnes qui ont des idées quand même très arrêtées, qui ont beaucoup réfléchi à leur truc. C'est compliqué de réunir tout ça. Si je peux réagir sur ce qui a été dit avant, y a plusieurs choses qui m'ont frappé, mais j'ai été très satisfait d'entendre l'intervenant du bout de la table, je ne connais pas son nom, parler d'effondrement et des questions auxquelles on est impliqué aujourd'hui, hein, d'attrition des ressources, etc. Voilà des sujets que vous devez connaître. Et je suis très content que ce sujet soit évoqué aux Beaux-Arts, parce que Pablo Servigne, par exemple, qui est un des auteurs sur le thème de l'effondrement, nous dit bien que c'est par l'imaginaire qu'on va s'adapter. Et donc, ici, hein, vous êtes quand même la forge de l'imaginaire, une des forges de l'imaginaire. Donc vraiment, c'est intéressant que ces sujets soient mis sur la table ici, je trouve. Et je pense que ça avance. Pour répondre à la question de l'effondrement, en cas d'effondrement, qu'est-ce qui se passe? Bon, la BNF est une très grosse institution. En cas d'effondrement, je ne sais pas ce qui reste en place. D'ailleurs, on parle d'art numérique, l'accès à un ordinateur, à Internet, etc. En cas d'effondrement, c'est pas gagné.
Les bandes LTO, peut-être?
Alors voilà, c'était exactement... T'as dit quoi? LTO?
LTO.
J'ai entendu LTO. Donc, c'est pour vous parler des solutions techniques qu'on emploie pour le stockage de tout ce qu'on numérise. À la BNF, on a beaucoup de choses qui sont analogiques, hein, du papier essentiellement, qu'on numérise à tour de bras. Mais en audio et en vidéo, on a aussi beaucoup de choses qui sont analogiques, des VHS, des vinyles, etc., des cassettes audio qu'il faut numériser. Et après, ou alors copier, hein, parce que j'ai parlé aussi des CD-ROM, de tous les supports informatiques, où là, c'est de la copie. Tout ça, une fois que c'est copié, une fois que c'est numérisé, c'est stocké. Et c'est stocké sur des bandes, dans une robotique de bandes magnétiques. Le support qu'on utilise, c'est le LTO. De mémoire, on est sur du LTO 8 à la BNF, et ça change régulièrement, ça double la capacité. Aujourd'hui, on est sur des bandes qui font 10 téra, à peu près 10-12 téra de données. Et c'est stocké pour 30 ans. Normalement, c'est garanti 30 ans. Évidemment, on fait plusieurs bandes. Quand on numérise quelque chose et qu'on fait des bandes, on les fait et on les stocke dans plusieurs endroits. Donc on peut, dès qu'on change de génération, on recopie tout, donc on garde les anciennes bandes. Donc on a des doublons, des triplons, des multiplons de tout ce qu'on numérise, parce que c'est très coûteux de numériser et on n'a pas envie de le perdre. Alors ça, on peut se dire, une bande, si le robot ne marche plus, parce qu'on n'a plus assez d'écrits, on peut récupérer les bandes une à une et aller lire ce qui a été stocké dessus avec un lecteur de LTO. Mais il faut un ordinateur, il faut un lecteur de LTO, il faut quand même un peu d'électronique. Je voudrais aussi faire un point, mais encore une fois sans monopoliser la parole, sur l'axe de la BNF. Donc, je vous ai parlé d'émulation, de numérisation, d'émulation. L'émulation, c'est donc le fait de remplacer une machine par un logiciel qui fait la même chose, en gros, qui comprend le langage et qui va utiliser un écran d'aujourd'hui, un clavier, une manette pour recréer les interactions. C'est toujours des choses qui sont avec un peu de perte. On ne peut pas garder... vous voyez, dans les années 80-90, on a des écrans cathodiques. Aujourd'hui, on a tous des écrans plats. Alors, à la BNF, on a encore quelques écrans cathodiques, mais on n'a pas vocation à maintenir des écrans cathodiques éternellement. On n'est pas le CNAM, on n'est pas un, voilà, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, voilà, à l'avenir, ce qui était sur écran cathodique va être présenté sur un écran plat. Ça fait une différence. Il n'y a plus le balayage, il y a des tas de choses qui utilisaient le balayage de l'époque pour donner des impressions visuelles, par exemple, qu'on arrive à recréer un peu artificiellement. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même avec perte. Et donc, ce qu'on fait, nous, est de tout à fait complémentaire avec ce que font d'autres intervenants de cette table ronde, c'est-à-dire de documenter beaucoup plus systématiquement, parce qu'on n'aura pas mieux. Une vidéo, faire une vidéo d'une installation, faire des interviews, des artistes, encore une fois, récupérer des notes d'intention. Alors, ce que nous, on peut donner, ce à quoi on peut donner accès, nous, par contre, c'est peut-être aller voir ce qu'il y a sous le capot, beaucoup plus que quand vous avez une machine. C'est difficile d'aller décompiler. Avec de l'émulation, on peut faire des pauses, on peut faire des enregistrements qu'on ne pourrait pas forcément faire sur les matériels d'origine. Et on peut aller voir le code, l'état de la mémoire, et si on est un peu affûté, comprendre les algorithmes éventuellement qu'il y a derrière et qui sont cachés. Et ça suppose quand même pas mal de boulot. À la BNF, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez venir faire. Ça ne prétend pas être la solution ultime pour garder l'accès à tous ces fonds-là.
Moi, je pense que de toute façon, c'est impossible de garder forcément, j'enfonce des portes ouvertes, mais à la place où nous, on crée des performances aujourd'hui, il y en a, et on accueille des artistes qui sont dans ces pratiques performatives, on est tout à fait conscient que dès le départ de ce projet Performance Source, qu'il était absolument impossible de redonner ce qui se passe dans le réel. Par contre, on a tenté de créer plusieurs accès, je les ai déjà cités, qui permettent... Entre autres... le projet a été aussi suivi et porté scientifiquement par une docteure en histoire de l'art, Clélia Barbu, qui a donc croisé ses pratiques avec les miennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir, bien sûr, la performance aujourd'hui et valoriser ces artistes qui sont passés au générateur. Et elle, s'est emparée de cette matière pour, par exemple, créer des archives orales. Donc, il y a déjà une trentaine d'entretiens avec des artistes qui sont sur la base de données pour leur poser des questions identiques qui sont sur leur relation avec la mémoire de leurs œuvres, la question des archives dans leur œuvre. Cette diversité est exponentielle, mais en tout cas permet d'approcher aussi de manière beaucoup plus vivante, ou en tout cas riche, la question de l'archive dans les arts vivants. Et la performance, moi, ce que je trouve toujours actuel et complètement pertinent de soutenir, c'est cette vitalité qu'il y a là. On voit maintenant, elle apparaît partout. Alors, c'est un bon signe. En même temps, on sait très bien que je suis bien placée pour voir aussi la difficulté de survivre de ces artistes-là. Effectivement, d'avoir une mémoire, même si elle est réduite et pas du tout exhaustive, de ce qu'ils ont fait, est une façon, bien sûr, comme tu disais, qu'on ne les oublie pas et qu'ils restent dans une histoire plus globale d'un champ de l'art. Alors, je ne sais pas si moi je vais être assez efficace. Voilà, les archives.
Alors, bien penser à décrire tout ce qu'on clique, parce que les gens qui nous écoutent à la radio ne voient pas l'écran.
Tout à fait. Donc, y a une, dans les archives, il y a plusieurs filtres. On peut chercher par année, par source, lieu et par, bien sûr, les noms. Là, on en a pour l'instant 550. On a aussi un volet qu'on voudrait développer d'analyse critique, c'est-à-dire qu'on veut faire appel à des auteurs, des historiens de l'art, des curateurs, des artistes qui apportent leur réflexion sur cette question de la mémoire dans la performance, des archives, de comment donc Clélia Barbu a écrit un texte, là il va y avoir voilà, le réseau, donc on a nos différents lieux là qui sont là et qui... Jacques Donghi, oui, qui a déjà déposé.
Jacques Donghi qui avait fait un des premiers générateurs de textes
tout à fait,
sur ouais. Amstrad CPC, oui. Il me semble, et on arrive à. Voilà, il est consultable à la BNF.
C'est ça, bah, récemment il a eu.
Sur un Amstrad émulé. Donc.
Voilà, les archives. Donc on a les archives. Sorbelli, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont passés par les Beaux-Arts. On est souvent en lien avec d'autres écoles d'art et Alberto a fait plusieurs performances au générateur. C'est vrai que c'était extraordinaire de pouvoir se dire que, bon, c'est pas seulement dans ma mémoire personnelle et ceux qui l'ont vu, mais accessible aussi pour tous les historiens, les chercheurs qui ont besoin de ressources. Enfin, tout le projet, c'est aussi axé sur cette idée de transmission des connaissances. Et la Fondation de France a cette mission-là. Voilà, alors on peut chercher par œuvre, par nom d'artiste. Et puis aussi, on a créé des mots-clés qui sont adjoints à chaque... quand on ouvre ici, ils apparaissent. Je ne suis pas très... très...
Performance.
Voilà. On revient en arrière.
Là, on est en train de naviguer sur la plateforme Performance Source. On revient en arrière. On change d'onglet.
Non, ah bah tiens, là-haut.
Voilà, c'est ça.
La souris vise le prochain...
Et alors, vous avez inventé un modèle de données pour...
Oui. C'est pour ça qu'au départ, d'ailleurs, on s'est rapproché de la BNF, parce qu'on était complètement novices, et pour comprendre comment on allait structurer et catégoriser les œuvres, ou en tout cas les classer. Le départ, c'était on avait 10 disques durs de photographie, parce qu'on a systématiquement documenté toutes les performances qui ont eu lieu au générateur. Et c'est sur ces 50... plus de 500 000 photos, non j'exagère, 50 000 photos, que le projet a commencé. On a appris au fur et à mesure comment filtrer, comment distinguer chaque donnée. On a eu une archiviste documentaliste de l'INA qui a créé le grand tableau CSV pour décortiquer toutes les œuvres avec les participants, la durée, l'année, les photos sélectionnées. Donc c'est un travail qui nous a pris 4 ans. En parallèle aux activités du lieu. Et aujourd'hui, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est amené à s'ouvrir de plus en plus et à servir au maximum un champ de l'art qui est quand même aussi de moins en moins, mais quand même invisibilisé, qui est quand même celui où il y a le moins d'économie, mais qui a aussi le plus de liberté, finalement, en termes d'outils pour les artistes. La performance rentre maintenant dans les disciplines enseignées dans les écoles d'art, ce qui est d'un côté formidable, puis de l'autre, je trouve toujours aussi surprenant. Parce qu'à vouloir finalement s'en approprier, c'est peut-être aussi tuer la performance à terme. On ne sait pas, on verra. Mais je ne pense pas, parce que c'est moi ce qui me passionne toujours dans ces formats atypiques et hybrides, c'est qu'en fait, on ne pourra jamais la définir, cette performance. Donc c'est un défi qui a été un truc impossible, en fait. Mais on a fait une proposition avec des entrées, forcément à un moment qui arrête les choses, mais avec les mots-clés qui permettent de trouver, juste avec un mot-clé, j'en sais pas, table, on tombe sur trois performances qui ont intégré dans leur action cet accessoire, par exemple. Et l'idée, c'était à la fois d'être très rigoureux sur un plan scientifique, sur ce qui s'est passé dans la performance, et en même temps de permettre un accès aléatoire, juste de curiosité, pour découvrir des artistes qui, la plupart, sont... à côté, en fait, sont pas dans le mainstream. Donc c'est un petit peu ça aussi, bien sûr, auquel on est attaché et qui me semble prometteur.
Ce que je trouve fantastique là dans cette table ronde, enfin d'avoir ces, voilà, vous là en face de nous, c'est qu'on a trois exemples complètement différents. Mais moi, j'ai fait pas mal de performances et je peux pas m'empêcher de voir une forme de ruissellement en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a la BNF qui serait le stade ultime de la patrimonialisation. Au milieu, on a le générateur qui a fait cette démarche incroyable de vouloir, d'une certaine manière, avec des moyens vous avez dit, assez humbles, mais malgré tout, de patrimonialiser ce qui se passe au sein du générateur, qui est une institution qui s'occupe de performance. Mais bon, le champ de la performance étant explosé, en fait, on a aussi l'impression que avoir le droit d'être patrimonialisé en tant que performeur, ça veut dire déjà avoir le droit d'être programmé au générateur. Du coup, est-ce que vous verriez des manières de pouvoir fédérer votre entreprise, votre projet, avec d'autres, comme par exemple Digital Library, qui sont au contact d'étudiants? Et en fait, ce que j'ai derrière la tête, moi, c'est tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez peut-être pas là, je parlais de la résolution à laquelle on regarde l'histoire de l'art dans 100 ans. Alors si aujourd'hui on regarde dans les collections de la BNF à la date, je ne sais pas, 10 ans avant maintenant, on aura une idée de ce qu'était que le champ de l'art. Sauf que l'art, ça se passe beaucoup par collaboration et par communauté. Et donc, si on pouvait patrimonialiser ce qui se passe dans les écoles d'art, si on pouvait patrimonialiser les tentatives de performance exécutées par les étudiants et étudiantes d'art qui ne sont pas spécialisés et professionnalisés, ni intermittents, ni rien du tout, alors on aurait une compréhension beaucoup plus aiguë de ce qui se passe quand on arrive au moment de la professionnalisation, du cachet et de la tournée d'une performance, qui n'est plus la même chose du tout qu'un acte éphémère réalisé dans une cour d'école. Du coup, pour revenir un peu à votre entreprise, la Digital Library, comment est-ce qu'on peut faire remonter en fait l'énergie que vous essayez de désinvisibiliser certaines pratiques et certaines logiques? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux tout?
Déjà, je tiens quand même à souligner que la performance, en tout cas celle j'accueille, se situe quand même rarement dans une notion de diffusion et de tournée. Parce que le sens même de l'acte performatif, c'est que ça a lieu qu'une seule fois. Donc déjà, là, on échappe à cette question. Par contre, réussir à saisir, et c'est d'ailleurs grâce à elle que je suis ici, c'est Camille Palou qui est là, qui était stagiaire là pendant 2 mois sur Performance Source, qui est venue avec cette question que vous venez de poser sur comment garder la mémoire d'actions qui sont même celles d'étudiants. Moi, je serais ravie de pouvoir le faire, sauf que c'est un travail, c'est Sisyphe, quoi. Ça nécessite derrière quand même des personnes dédiées, du matériel, des moyens. Mais c'est à cet endroit-là que je trouve que la performance a le plus de sens, en fait.
Et peut-être que du coup, ça pourrait être, le générateur et Performance Source pourrait être un relais vers la BNF, Jean-Philippe?
Tout à fait. Non, moi, j'ai un autre exemple en tête. C'est on accueille régulièrement la Global Game Jam, qui est, je ne sais pas si c'est trop des élèves ingénieurs, des choses comme ça, enfin des gens qui développent des petites choses comme ça dans un temps limité et qu'on va archiver. Donc pourquoi pas trouver un moyen avec les étudiants, enfin des étudiants des Beaux-Arts ou d'autres écoles, pour faire une espèce de manifestation, d'exposition, de travail de, je sais pas, de fin d'année, de choses comme ça, et pourquoi pas envisager de les faire entrer dans nos collections. Ça, c'est, moi, je suis pas conservateur, hein, non, moi je suis, vous avez compris, le volant technique, mais on a un représentant ici des collections du SVM.
Hein. En tout cas,
une initiative intéressante.
Mais en tout cas, le fait d'être dans Performance Source, il faut être programmé au générateur. En fait, c'est juste, il faut commencer par un endroit qui a été le nôtre, mais à terme, et en soi, ce serait absolument l'idée, c'est de l'ouvrir, cette base de données, et qu'il y ait des artistes aussi qui travaillent sur les archives en tant que matière artistique. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je suis hyper intéressée. Il y a des projets comme ça, bien sûr, qui sont possibles, au contraire.
Peut-être alors, du coup, avec Digital Library, puis après...
Peut-être juste quelques mots, parce que c'est vrai que c'est... plutôt très différent, toujours, comme je dis au début, vos approches et notre, parce qu'on n'a pas en fond. Mais je voulais juste ajouter sur la question des performances et la documentation, parce que c'est quelque chose qu'est-ce qu'on s'est beaucoup posé aussi comme la réflexion, parce qu'on ne peut bien sûr pas tout documenter. En même temps, est-ce qu'il y a un intérêt de tout documenter aussi? C'est une vraie question. Et pour nous, on travaille sur ces projets concrets, c'était à une échelle beaucoup plus petite que BNF ou Générateur. Et donc, on a pu se permettre de vraiment travailler cette question des documents. Donc, même ça, qu'est-ce que vous voyez, c'était une énorme réflexion sur est-ce qu'on produit de nouveaux textes ou est-ce qu'on va juste recycler des choses qui étaient déjà dites, des conversations qu'on a menées. Et donc, on a fait un choix plutôt de les retranscrire plutôt que de produire de nouveaux textes. Pour des performances, on a aussi recyclé des certains moments pour que ça devienne un autre objet, une performance dans l'espace public a devenu un film à la fin, mais c'était donc toute une réflexion sur le statut des documents, qu'est-ce qu'il peut devenir et quelle peut être sa utilité. Et je pense que cette réflexion, on peut se permettre uniquement si on a le temps de le faire et aussi en échelle qui est réduite, parce que ça, on ne peut pas faire un accompagnement aussi réflexif là-dessous avec une gamme des artistes qui est très nombreuse. Donc nous, on a fait ce choix aussi de juste travailler avec aussi des invitations à long terme où on a plutôt donné le budget aux artistes comme une rémunération, et on a plutôt déduit des projets documentation ou de la production. Donc c'était aussi toute une réflexion autre qu'on a pu se permettre de faire. Donc je voulais juste ajouter ça. Et tu voulais dire aussi quelque chose?
En fait, Sébastien va parler après. Dans l'après-midi, on est désolé, là, le temps tourne un petit peu. Faut qu'on... Et voilà, on voulait reprendre quelques questions avant de passer.
Bonjour, de relais à Gilles. Moi, j'ai une question après l'effondrement, en fait, si ça n'a pas déjà eu lieu. Parce que vous parliez ce matin de la répétition des anciens. Là, j'ai consulté un fonds d'œuvres, on va dire, écrites en basique des années 80-90. Et leur pratique, c'était d'imprimer tout le code. Alors, c'est facile parce que ce sont sur des listings, c'était des lignes, hein, GoTo, etc. Il n'y a pas de format propriétaire, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais en fait, après l'effondrement, est-ce que vous faites des sauvegardes en imprimant tout le cahier des charges, enfin le code? Mais ça serait possible ou pas? Parce que du coup, c'est quand même l'homme ou l'humain plutôt, excusez-moi, qui écrit. Il y a quand même quelque chose de très cartésien là-dedans. Putain, c'est du code. Pourquoi? Vous voyez la petite nouvelle de Pierre Borges, Pierre Ménard, auteur du Quirote, qui dit, en fait, Pierre Ménard, il réécrit Cervantes, et en fait, Borges dit, mais c'est lui qui a écrit ça, c'est pas Cervantes, il a passé sa vie à réécrire le premier livre. Et du coup, pourquoi vous faites pas... Parce qu'en plus, il y a une émotion quand on est face au langage, au code, et on n'est plus obligé, parce que ce matin, j'entendais parler d'algorithmes et de Vera Molnar, etc. Par exemple, le programme Dialecteur de Chris Marker, moi j'ai bossé sur la restauration, tout le monde se disait, ouais, c'est une base de données, il y a du random, de l'aléatoire, etc. C'est 30 lignes de code, je vous jure, qu'il n'y avait pas de pendule à l'époque sur les ordi. Donc de toute façon, l'aléatoire, ce n'est pas du tout une base de données, c'est hyper structuré, c'est magnifique, c'est un genre littéraire, c'est une écriture, c'est une syntaxe, et ça, tant qu'on n'a pas accès au code, au langage, on n'a pas accès à la recette, enfin je sais pas quoi, à la touche. Donc pourquoi vous nous faites pas ça, même s'il faudrait, je sais pas moi, aller 3 mètres pour écrire une œuvre que vous avez récupérée avec un émulateur dans un émulateur dans un émulateur. Enfin voilà, la question c'est pourquoi vous nous imprimez pas des tonnes de trucs pour après l'effondrement, comme ça on aurait des choses à faire.
C'est une bonne question, hein, d'autant que on traite, là, dans le département dans lequel j'appartiens, on traite de supports qui sont très, très périssables par rapport au marbre du Parthénon ou les pyramides, hein, voilà, du texte écrit depuis 5000 ans qui sera sûrement encore là dans 5000 ans. Nous, on est sur des choses qui, en quelques dizaines d'années, sont plus lisibles. Si on parle du magnétique ou des disques optiques, le papier, bon, il a quelques centaines d'années, il tient bien, mais enfin, si on regarde la presse du 19e siècle, c'est en train de partir en confetti. Donc, imprimer, alors, ça pourrait être une solution. La question du code source est passionnante. Je participais il y a pas plus tard que 10 jours à une conférence organisée par le syndicat du jeu vidéo et sur ces questions de mémoire et de code source. Mais il faut savoir que le code source n'est pas déposé. Le code source ne relève pas du dépôt légal. Alors, sauf dans cas très exceptionnel, c'est sur un GitHub public, accessible au public, on pourrait imaginer de le faire, mais enfin, c'est quand même compliqué. Donc, nous, on a des œuvres terminées, compilées. Et on a rarement, très rarement, du code source. Ça peut être dans le cadre de dons, effectivement, qu'on récupère les choses, mais en réalité, on a très, très peu de code source. Donc, voilà. Et effectivement, je suis d'accord que c'est l'algorithmique, elle est là-dedans, et il faudrait accéder à ça pour avoir les intentionnalités, en réalité. Mais, bon.
Si je ne me trompe pas, le code source est intégré au code de propriété intellectuelle comme œuvre littéraire. C'est une œuvre littéraire.
C'est probable,
ouais. Oui. Ah ouais. Selon le code de propriété intellectuelle.
Oui, mais il n'est pas public, donc il n'est pas déposé.
Il est ouvert, évidemment, c'est là l'intérêt des logiciels libres. Il faut que le code source soit ouvert.
Et... Voilà. Et le dépôt légal, c'est pour des choses accessibles au public. Donc, le code source qui a donné lieu à quelque chose qui est accessible au public, une fois compilé, voilà, c'est le binaire qui est déposé. Hein. Ce n'est pas le code source qui, lui, n'a pas lieu d'être déposé. Sauf, encore une fois, s'il est publié. S'il est publié, alors là, on a des revues. Hein, on a des revues des années 80. Il y avait Hebdogiciel qui donnait des codes sources pour différentes machines de l'époque. On a ça. Mais c'est des exemples de codes sources. Mais pour tout l'art numérique... tout l'art numérique... Vous dites, la BNF, c'est très très gros. Oui, mais la collection d'art numérique n'est pas si pléthorique que ça. Hein. On a quelques centaines d'œuvres hein, par rapport aux milliers dont vous parlez. Hein. Donc on n'est pas si gros en termes de collection. Par contre, c'est vrai qu'on a des gros moyens et on a une grosse pérennité. Mais voilà...
Oui, mais c'est vrai que ça ne recouvre pas toutes les réalités qu'on a vues là. C'est-à-dire que... Tout ce dont on parle depuis ce matin, c'est l'archive numérique, le numérique et l'archive. Ça ne concerne pas uniquement des choses qu'on peut ouvrir pour y constater un algorithme. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, des vidéos qui sont numériques ou des enregistrements numériques, il n'y a pas d'algo derrière, il n'y a pas de code source concret, on est d'accord. Sauf si c'est une performance avec... une espèce d'algorithme, d'écriture, mais globalement, ça concerne quand même seulement une fraction en fait, de ce qu'on aborde depuis ce matin, même si elle est très importante. Et évidemment, le code source, c'est l'essence en fait, d'un travail où l'informatique ou le code est considéré comme étant à la source, précisément, du travail. Mais ça, c'est une grande...
On distingue les documents statiques au sens où ils sont jouables avec un player, et dans statique, il y a la vidéo et le son, et des œuvres dynamiques, là, ce qu'on appelle plus le multimédia, où là, il y a de l'interactivité, où il y a du calcul, quelque part, mais derrière.
De fait, enfin, on parlait de Vera Molnar ce matin, on pourrait très bien faire des dessins à la Molnar en utilisant des algorithmes, et là, c'est statique, parce qu'on peut en avoir une image ou un son, ou une vidéo, mais ça a été réalisé par un ordinateur qui a été codé et qui a été codé par l'artiste, enfin, qui pourrait être codé par l'artiste. Donc ça existe aussi, cette situation-là. Je pense que c'est ce à quoi on se référait là. Mais je crains que...
Sur cette question-là, précisément, parce que le code source ouvert, le code source, dans son optique ouverte, c'est pas simplement une question technique, c'est une question pour l'auteur de disposition d'esprit. C'est une question sociale aussi.
Politique.
Et politique, oui. Et
donc, ça, commentaires,
ça me paraît important. Enfin, ça dépasse le pur aspect technique, techniciste.
Politique.
D'une part, et d'autre part, je comprends pas très bien, parce que à partir du moment où le code source est ouvert, il est public.
Oui, mais enfin, il l'est rarement et il est rarement diffusé. Hein. C'est parce qu'il est ouvert. Enfin,
de fait, il est diffusé puisqu'il est modifiable, diffusable, copiable.
Oui, mais alors ça c'est alors plus à voir avec la politique de récupération du ce qu'on appelle le DL web, c'est-à-dire le dépôt légal d'Internet, hein, parce qu'en l'occurrence ça risque d'être sur des sites web, et là on est très limité en réalité dans les moyens qu'on met en œuvre. Déjà on récupère que des .fr, hein, Donc, à quelques exceptions près. Voilà. Après, normalement, on est en charge du .fr. Et si c'est pas un .fr, c'est un .net, un point autre chose, un .org. C'est pas aussi évident. Et puis après, techniquement, la récupération d'Internet est pas simple. Et on y arrive assez mal, globalement. Hein. Faut pas se leurrer, parce que on utilise des robots qui suivent des liens. Donc ah oui, mais il faut que le code soit publié.
Je pense
pour conclure, sur un grain de sel, ouais. Ça pose des questions d'écologie, en fait. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le code source d'un truc écrit dans les années 80, si on n'a pas le framework, la machine, le système d'exploitation, ça ne sert à rien, en fait.
Ça sert, c'est pas tout à fait vrai. Ouais, mais
la lecture du code peut être instructive, quand même.
Exactement, c'est même fondamental.
On ne peut pas le rejouer.
On a 20 minutes de retard sur l'horaire prévu.
Donc,
je suis désolé.
C'est
pas énorme, mais.
Mais vous pouvez rester là.
Vous allez voir. De toute façon, c'est connexe parce que Gilles Rufino va aborder les questions qui sont liées vraiment aux émulations, notamment de DVD, etc. Donc, je pense qu'on va pouvoir raccrocher quelques questions d'ici 20 minutes aussi. Je pense, parce qu'il faut. Ok. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Donc on va enchaîner. C'est en visio, mais effectivement après il y a les intervenants qui vont venir s'asseoir ici. Donc tu peux rester là. Tu veux. Gilles, est-ce que tu nous entends?
Oui, très bien. Toi aussi.
Ah ouais. Est-ce que tu peux parler, Gilles?
Oui, est-ce que là tu m'entends?
Parce que là t'es pas fort, ouais.
Ouais, bon, moi je lance mon partage d'écran.
Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît?
Oui, ça y est. Moi j'ai un peu d'écho dans ma pièce, mais c'est bon.
T'entends assez mal, hein.
Écoute, je suis à peu près dans la même configuration. Je suis dans la même configuration qu'hier. J'ai le même casque. Ça va?
Bon, vas-y, tu peux démarrer.
Et par contre, il faut que je lance dans le Zoom qui m'empêche de lancer. Et, oui, je voulais lancer mon play. Mon Keynote, pour pas que vous voyez mon écran comme ça. Voilà, ça y est, normalement, c'est bon. Là, est-ce que vous êtes en plein écran? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours?
C'est bon, parfait.
D'accord, t'es en plein écran, là?
Ouais.
D'accord.